de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. La chaîne UE doit contribuer à une reprise économique inclusive, a affirmé Jokowi. La Banque mondiale prévoit que l'économie indonésienne augmentera de 5,2% en 2022. La BAD a approuvé un prêt de 93 millions de dollars américains pour l'élevage de crevettes en Indonésie. L'ONU approuve la révocation de l'adhésion de l'Iran à la Commission de la condition de la femme. Le ministre des Entreprises publiques a rencontré le ministre des Finances du Qatar pour discuter du renforcement de la coopération économique. Les États-Unis sont prêts à étendre la coopération culturelle avec l'Indonésie. Le personnel est affecté par la COVID-19. L'ambassade d'Indonésie à Pékin est temporairement fermée. Voici le journal complet. Le président du Covid Dodo, Jokowi, a souligné que le partenariat entre l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, et l'Union européenne, UE, doit pouvoir contribuer à une reprise économique inclusive, dont l'une consiste à faciliter le commerce et l'investissement. C'est ce qu'a affirmé la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, lors d'un point de presse virtuel jeudi. Il a également déclaré que le président Joko Widodo, lors du 45e sommet de coopération ASEAN-UE à Bruxelles en Belgique, a spécifiquement critiqué la proposition de règlement sur la déforestation de l'UE parce qu'elle était considérée comme une entrave au commerce. Le président a souligné que l'Indonésie continuera à développer les industries en aval pour encourager un développement plus inclusif. La Banque mondiale, dans la dernière édition du rapport sur les perspectives économiques de l'Indonésie, IEP, prévoit que l'économie indonésienne connaîtra une croissance de 5,2% en 2022 à mesure que l'économie rouvrira après la COVID-19 et que les prix des matières premières augmenteront. La croissance économique de l'Indonésie devrait également se maintenir à un taux moyen de 4,9% à moyen terme, à savoir de 2023 à 2025. C'est ce qu'a indiqué le directeur de la Banque mondiale pour l'Indonésie et le Timor-Leste, Satu Kahkonen, dans le lancement du rapport sur les perspectives économiques de l'Indonésie de la Banque mondiale à Jakarta jeudi. La Banque mondiale prévoit que l'inflation indonésie atteindra son pic en 2023, à savoir au niveau de 4,5%, et devrait rester dans la cible de la limite supérieure de la Banque mondiale. Je veux dire de la Banque d'Indonésie, à savoir dans la fourchette moyenne de 3,5% de 2024 à 2025. La Banque asiatique de développement BAD a approuvé un prêt de 93 millions de dollars américains pour promouvoir l'élevage de crevettes pour les petits exploitants agricoles dans cette province indonésienne. Dans sa déclaration, la spécialiste principale des ressources en eau de la BAD pour l'Asie du Sud-Est, Eric Kangsio, a déclaré jeudi que l'Indonésie est l'un des principaux acteurs du marché mondial avec une part de marché mondial de 8,7%, ce qui est en fait le cinquième plus grand producteur de crevettes au monde, ainsi qu'un exportateur vers l'Union européenne, le Japon et les États-Unis. Grâce à cette assistance, la BAD espère que les pratiques d'aquaculture durable contribueront à réduire la pression sur les écosystèmes tout en augmentant la productivité. Le Conseil économique et social ECOSOC des Nations Unies, ONU, a adopté mercredi 14 décembre une résolution concernant la révocation de l'adhésion de l'Iran à la Commission des Nations Unies sur la condition de la femme. Le projet de résolution proposé par les États-Unis a empoché 29 voix le pour. Pendant ce temps, 8 membres de l'ECOSOC, dont la Chine, l'ont rejeté et 16 pays se sont abstenus. La résolution s'inquiétait de la mise en œuvre par l'Iran de politiques clairement contraires aux droits humains des femmes et des filles et le mandat de la Commission des Nations Unies sur la condition de la femme et a décidé de retirer immédiatement l'Iran de l'adhésion à la Commission pour le reste de son mandat 2023-2026. La Commission des Nations Unies sur la condition de la femme est le principal organe intergouvernemental mondial dédié spécifiquement à la promotion de l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes. En tant que commission fonctionnelle de l'ECOSOC, la Commission des Nations Unies sur la condition de la femme a été créée en juin 1946. Le ministre des Entreprises d'État, Eric Thohir, a rencontré jeudi à Doha le ministre des Finances du Qatar, Ali bin Ahmed Al-Kouari. Ils ont discuté du renforcement de la coopération économique entre l'Indonésie et le Qatar. Dans sa déclaration, Eric Thohir a déclaré que la coopération entre les deux pays, où la majorité de la population est en âge productif, devrait encourager la création d'emplois en Indonésie. Cette collaboration devrait également encourager l'extension de l'économie de la charia. La veille, Eric Thohir a également rencontré le directeur des investissements de l'autorité d'investissement du Qatar pour l'Asie, Cheikh Faisal Thani Al Thani. Les deux hommes ont discuté d'une coopération potentielle dans les domaines de l'investissement, de l'éducation et du sport entre l'Indonésie et le Qatar. L'ambassadeur américain en Indonésie, Sung Yong Kim, s'est dit prêt à étendre la coopération culturelle avec l'Indonésie à travers un certain nombre de programmes qui seront lancés l'année prochaine. Il a fait savoir qu'il était prêt lors du 12e anniversaire du Centre culturel de l'ambassade des États-Unis à Jakarta, à Robase America, jeudi. Kim a révélé qu'un certain nombre de programmes culturels nommés Rencontrer l'ambassade des États-Unis seront lancés le 23 janvier 2023. L'accent principal de ces programmes est sur des sujets d'actualité dans les relations culturelles américano-indonésiennes. Il a dit que ce programme permettra au peuple indonésien et aux citoyens américains en Indonésie de partager leurs expériences et de discuter de diverses questions, en particulier liées à l'inclusivité dans la vie des habitants des deux pays. L'ambassade d'Indonésie à Pékin, en Chine, est temporairement fermée jusqu'au 20 décembre 2022, car sur la base des résultats d'un test PCR indépendant publié jeudi, la plupart des personnels et des employés ont été détectés positifs à la COVID-19. En accord avec le protocole sanitaire de Pékin, ceux qui sont positifs pour la COVID-19 doivent s'auto-mettre en quarantaine à la maison jusqu'à ce qu'ils puissent récupérer. Cela a été annoncé par l'ambassade d'Indonésie à Pékin. Avant de rouvrir, l'ambassade d'Indonésie à Pékin effectuera un autre test PCR indépendant lundi 19 décembre. Auparavant, l'ambassade d'Indonésie à Pékin avait organisé un test PCR de masse indépendante pour le personnel et leurs familles mercredi 14 décembre. Les résultats de test PCR sont sortis jeudi. L'ambassade d'Indonésie à Pékin n'a pas mentionné combien de membres de son personnel et d'employés avaient des résultats de test PCR positifs pour COVID-19. Ces auditeurs, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui, intitulée « L'Iran a été expulsé de la Commission de la condition de la femme de l'ONU ». Vous êtes avec moi Audrey. Sur le tard, l'ONU révoque officiellement l'adhésion de l'Iran à la Commission des Nations Unies sur la condition de la femme. C'est Commission des Nations Unies sur la condition de la femme. La décision de révoquer l'adhésion de l'Iran à la Commission de l'ONU a été prise lors d'une réunion de vote liée à la résolution présentée par les États-Unis mercredi 14 décembre. Lors de ce vote, 29 pays ont voté en faveur d'une résolution visant à retirer l'Iran de la Commission des Nations Unies sur la condition de la femme pour le reste de son mandat 2022-2026. 8 pays ont voté contre la résolution. 16 pays se sont abstenus. Ce résultat ne s'applique qu'à la durée restante de l'adhésion de l'Iran à la Commission des Nations Unies sur la condition de la femme aujourd'hui, à savoir de 2022 à 2026. La résolution citée par France 24, jeudi 15 décembre 2022, déclare que les dirigeants iraniens continuent de saper et de réprimer davantage les droits humains des femmes et des filles. Cela inclut le droit à la liberté d'expression et d'opinion, et implique souvent l'usage d'une force excessive. Le gouvernement iranien aurait poursuivi des politiques qui contredisent de manière flagrante les droits humains des femmes et des filles. Pendant ce temps, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, après le vote, a déclaré que le retrait de l'Iran de la Commission de la condition de la femme de l'ONU est une chose très importante pour les femmes iraniennes. Selon Linda Thomas Grenfell, la décision envoie un message aux femmes iraniennes que la communauté internationale les soutient. L'Iran s'est dit déçu de la décision. L'ambassadeur iranien et représentant permanent de l'Iran auprès de l'ONU, Amir Saïd Irfani, cité sur CNN.com, 15 décembre, a déclaré que la résolution visant à retirer l'Iran de la commission de l'ONU était sans fondement ou illégale. La déception de l'Iran est compréhensible, car même si la révocation de l'adhésion n'est valable que pour quelques années, la partie iranienne en subira des pertes. À tout le moins, au cours des prochaines années, l'Iran perdra son soutien financier. Jusqu'à présent, la mise en œuvre des politiques liées au genre et à l'autonomisation des femmes a reçu le soutien financier de la Commission des Nations Unies sur la condition de la femme. L'Iran a également perdu des occasions de coopérer avec diverses agences gouvernementales pour résoudre les problèmes de statut de genre. Pourtant, si l'on y regarde de près, au final, ce sont les femmes iraniennes qui souffrent le plus. Avec l'expulsion de l'Iran de la Commission des Nations Unies, tous les efforts pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes deviendront de plus en plus difficiles au cours des prochaines années. On espère que le gouvernement iranien ne se laissera pas abattre par la déception et respectera les droits humains des femmes et des filles, y compris le droit à la liberté d'expression et d'opinion, afin d'éviter des sanctions plus sévères. Bon, cher Jouetard, c'est tout le commentaire.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire aujourd'hui. Le 16 décembre 1942 est la mort de l'activiste Suhogi à Mahameru. Suhogi est un activiste d'origine indonésienne chinoise qui s'est fermement opposé aux dictatures des présidents Suharto et Sukarno. Il est né à Jakarta le 17 décembre 1942. L'étudiant de la faculté de lettres de l'Université d'Indonésie est mort sur le mont Semeru à Java Oriental le 16 décembre 1969 ou à l'âge de 26 ans. Il est décédé avec son collègue Idan Lubis. Suhogi, dans son journal qui est enregistré plus tard, il rêve de conquérir le sommet de Semeru ou Mahameru. Lorsque son objectif a été atteint, il est mort. Le 16 décembre 1971, la fin de la guerre entre l'Inde et le Pakistan, le Bangladesh est indépendante. Le 16 décembre 1971, le conflit armé entre le Pakistan occidental, le Pakistan oriental et l'Inde a pris fin. Cette guerre a duré environ 10 mois, du 26 mars au 16 décembre 1971. La guerre a pris fin parce que le Pakistan s'est rendu à l'Inde ou au Bangladesh. Ainsi, le Bangladesh, qui faisait auparavant partie du territoire pakistanais, est officiellement devenu un pays indépendant. Après la guerre, il n'a pas été facile pour le Bangladesh d'être reconnu comme un pays à part entière. Ils ont besoin d'une reconnaissance internationale parce que peu de pays reconnaissent le Bangladesh. Le 16 décembre 1989, Révolution roumaine. La Révolution roumaine a été la plus grande manifestation ainsi que des émeutes qui ont eu lieu pendant une semaine, le 16 décembre 1989. Les manifestations et les émeutes ont été motivées par le renversement du régime communiste de Nicolae Ceaușescu. La Roumanie est le seul État membre du Bloc de l'Est qui insiste pour renverser son régime communiste par la force et exécuter ses dirigeants. Le nombre total des morts dans la révolution roumaine est de 1104,162 sont morts lors des manifestations qui ont conduit à la chute de Nicolae Ceaușescu. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Bagaimana hidupku bila aku tak menemukanmu? Lama sudah aku menunggu hadirnya seseorang seperti dirimu. Semua keindahanku saksikan dengan mudahnya kau kalahkan di detik saat kau katakan ya. Oh ya, ku tahu ku temukan apa yang ku cari selama ini. Lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Kini kau tak jadi milikku, dan ku berharap selalu begitu. Bila mampu ku ubah perjalanan hidupku, ingin aku menemukanmu dari dulu. Oh, banyak kekalahan dalam hidupku, oh, dan kini ku menangkan hatimu. Oh yeah, pastikan kita temui masalah, bertengkar karena hal yang itu-itu saja. Namun kan mendewasakan kita. Lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Kini kau tak jadi milikku, dan ku berharapkan selalu begitu. Bila mampu ku ubah perjalanan hidupku, ingin aku menemukanmu dari dulu. Aku kan selalu ada untukmu, saat getir dunia mulai datang menyapa. Dan apapun yang kan terjadi, selalu bersama. Penantianku lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Kini kau tak jadi milikku, dan ku berharapkan selalu begitu. Bila mampu ku ubah perjalanan hidupku, ingin aku menemukanmu.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici donc Mon Indonésie ayant pour le titre. Fitch a de nouveau maintenu la note de l'Indonésie à BBB avec une perspective stable. L'agence de notation Fitch a de nouveau maintenu la note de crédit souverain de l'Indonésie à BBB ou la qualité d'investissement avec une perspective stable le 14 décembre 2022. Cette décision tient compte de bonnes perspectives de croissance économique de l'Indonésie à moyen terme et du faible ratio de la dette publique au produit intérieur brut PIB. Répondant à la décision de Fitch, le gouverneur de la Banque d'Indonésie, Perry Wardjo, dans sa déclaration officielle mercredi, a déclaré que l'affirmation de la notation de l'Indonésie à BBB avec une perspective stable montre la forte confiance des parties prenantes internationales dans la stabilité macroéconomique et les perspectives économiques à moyen terme de l'Indonésie. D'autre part, Fitch estime qu'il reste encore un certain nombre de défis à relever, à savoir des recettes gouvernementales qui sont encore faibles et plusieurs indicateurs structurels tels que les indicateurs de gouvernance qui sont relativement inférieurs à ceux d'autres pays de même note. Dans un rapport publié jeudi, Fitch évalue que la reprise économique de l'Indonésie se poursuivra et devrait croître de 5,2% en 2022. Pendant ce temps, la croissance économique de l'Indonésie en 2023 devrait ralentir à 4,8%. À moyen terme, Fitch estime que la croissance économique de l'Indonésie atteindra 5,6% en 2024. Cette croissance est soutenue par l'impact positif de la mise en œuvre de la loi sur la création d'emplois, sur l'augmentation des investissements ainsi que par les engagements à poursuivre le développement des infrastructures, y compris la construction de nouvelles capitales IKN dans le Kalimantan oriental. Selon le plan extérieur, après avoir enregistré un excédent de compte courant au cours des deux dernières années, Fitch estime que le compte courant de l'Indonésie enregistrera un déficit de 0,8% du PIB en 2023. On estime que l'investissement étranger continuera d'augmenter progressivement, de sorte qu'il devrait encourager les exportations dans le secteur manufacturier et la poursuite de l'activité en aval. En ce qui concerne l'évolution des prix, la mise en œuvre d'une politique monétaire restrictive devrait réduire l'inflation afin qu'elle atteigne la fourchette cible de 2% à 4% à la fin de 2023. Fitch estime que le gouvernement ramènera le déficit budgétaire sur le plafond de 3% du PIB en 2023. Le déficit budgétaire affiche une baisse continue, à savoir de 4,6% du PIB en 2021 à 3,4% du PIB en 2022 et à 2,9% du PIB en 2023. Cela a fait de l'Indonésie l'un des premiers pays de la région d'Asie du Pacifique à ramener avec succès le déficit budgétaire au niveau d'avant la pandémie. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
He ate the
C'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute! Chers auditeurs, voici la rubrique magazine culturel avec moi Audrey. Aujourd'hui, je vais vous présenter la tradition de Cuci Negeri Soya. Laver le pays du soja de Ambon. Chers amis, il y a quelque temps, des dizaines de femmes adultes se sont réunies à la maison traditionnelle Baileo pour se préparer au Cuci Negeri Soya. Laver le pays du soja. Une tradition héréditaire du royaume de Soya qui était autrefois l'un des principaux royaumes d'Ambon. Cuci Negeri Soya a lieu chaque année la deuxième semaine de décembre, couplée à d'autres événements traditionnels, notamment le nettoyage du pays, l'ascension du mont Sirimau, la cérémonie traditionnelle du lavage du pays, le lavage de l'eau, Wai Werhalau et Unwei et l'entrée du tissu gandon. La cérémonie du lavage de la nation est une tradition pour purifier la nation et en même temps se purifier des sentiments d'inimitié, d'envie, de suspicion. Ainsi, lors de l'événement de lavage du pays, Upulatu Soya, où les anciens traditionnels ont également demandé aux habitants de Negeri Soya de purifier leur cœur pour développer le pays. Cuci Negeri Soya est désigné patrimoine culturel immatériel depuis le 20 octobre 2015 par le ministre de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie. La reconnaissance de cette tradition a été réaffirmée après que le ministère de l'Éducation et de la Culture, de la Recherche et de la Technologie de la République d'Indonésie a décerné le 9 décembre le prix culturel indonésien AKI 2022 à Negeri Soya pour avoir préservé la tradition de laver le pays. Chers amis, Cuci Negeri Soya est marqué par deux hommes portant des percussions, tahuri, un instrument à vent fait de coquillages, faisant le tour des autres points coutumiers pour transmettre des tabaos ou l'appel du roi de Soya. Après que l'instrument de musique fait de coquillages ait été soufflé, ils ont informé les habitants que la tradition Tutine-Grisoya durerait les 5 prochains jours. La série de traditions commence par le nettoyage du pays pendant 2 jours. À partir des jeunes, des adultes aux personnes âgées, main dans la main pour nettoyer l'environnement où ils vivent, en particulier dans la zone autour de l'église au rocher, des cimetières et des maisons traditionnelles by Léo. En dehors de cela, un certain nombre d'autres femmes étaient également occupées dans la cuisine à cuisiner 4 types d'aliments traditionnels, à savoir des gâteaux de cèpe à base de pâte de joue de palmier, des gâteaux éponge boubenka à base d'un mélange de cassonade et de noix, des gâteaux de diamant à base de pâte collante, riz et sucre, riz pulut, bambou brûlé. Chers amis, le point culminant de la tradition du lavage de la terre a lieu le vendredi après-midi. En commençant par un groupe d'hommage d'adultes du clan Soapera grimpant au sommet du mont Sirimau la nuit précédente. Ils doivent jeûner pendant le voyage avec l'accompagnement de tambours, de gongs et d'instruments de musique tofu. Le groupe était dirigé par un chef Soa traditionnel et au sommet du mont Sirimau. Ils nettoyaient les réservoirs d'eau, s'appelle Jar, laissé par leurs ancêtres, tout en récitant des prières et en racontant des histoires sur l'histoire du pays du Soya. Soya est une association territoriale généalogique qui existe dans l'État, composée de plusieurs maisons. Vendredi après-midi, ils sont descendus de la montagne pour récupérer le roi de Soya et se sont dirigés ensemble vers Baileo Samasuru. Il marchait accompagné d'Antifa et la personne au premier rang portait le drapeau rouge et blanc de Soya. À Baileo, tous les habitants écoutaient les ordres et les messages du roi, les sermons du prêtre, les explications sur le tissu gandon par le plus ancien chef de Soya. Le tissu gandon est un long tissu blanc qui est un symbole de fraternité, généralement porté lors des processions culturelles dans les terres traditionnelles de Maluku, suivi de la lecture de Kapata par le chef du Soa traditionnel qui commence par souffler le tofu. Chers amis, Kapata est une prière et une demande pour que le pays de Soya et ses citoyens reçoivent la protection de Dieu et soient tenus à l'écart de la maladie. Après cela, le groupe de clans Soya d'origine Soapera et les clans qui ont suivi Soaeran se sont nettoyés ou se sont lavés à l'eau à une autre source d'eau. Soapera dans l'eau Waiwerhalo, tandis que Soa Eran dans l'eau Unwei. Les deux groupes ont chacun marché depuis le lieu de lavage à l'eau, délimité par un tissu blanc de 50 mètres de long, en forme de lettre U. Après cela, les deux groupes se sont rencontrés à un endroit pas loin de la table à manger pour s'unir. À cet endroit, le tissu de gandon tournait 3 fois autour du groupe uni. Le gandon, un tissu qui est réuni, est le symbole des deux groupes prêtant serment de devenir le pays du Soya. C'est l'apogée de la tradition du lavage de Soya ou Tutine-Grisoya c'est l'apogée de la tradition du lavage du soja ou cuci negeri soya. Bon, chers auditeurs, c'est tout, le magazine culturel. Serge Ritard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de l'Indonésie en couleur avec moi Audrey. Intitulée Tanah Lot et Heha Ocean View, lieu avec de belles vues les plus recherchées en 2022. Vous êtes avec moi Audrey. Chers Cherjoita, Tanahlot à Bali et Heiha Ocean View entrent à l'intérieur liste. Ceci est connu de Year in Search 2022, publié par Google. Cette liste contient des recherches et des mots-clés les plus recherchés au monde en 2022. Google catégorise chaque recherche par catégorie, entre autres catégories de films, événements sportifs, actualités, particuliers, recettes, événements télévision dans un endroit avec une belle vue. Pour catégorie de lieux avec de belles vues, il a 7 placés sur la liste, dont 2 d'entre eux est une destination en Indonésie. Chajami Tanahlot est l'un des 7 endroits avec de belles vues les plus recherchés sur Google tout au long de 2022. Tanahlot est une attraction touristique sur l'île de Bali, en Indonésie, qui est très demandée par les touristes locaux et étrangers. Cité de la page Indonesia Travel, ce site touristique se trouve dans la région de Tabanan, à environ 30 km de Denpasar et à environ 300 m de la ligne maritime. Les touristes qui viennent à Tanahlot seront présentés avec de belles vues sur le temple et la plage. Il n'est donc pas rare que Tanahlot soit utilisé comme lieu emblématique pour les selfies lors de la visite de Bali. Chers amis, outre Tanahlot, Heiha View est également inclus dans la liste avec le Belvedere del Gianicolo, Rome, Italie, Oshino, Japon, Ponta de Piedade, Lagos, Portugal, Cetas de Séville en Espagne et les Sky Garden à Londres. Heiha View est l'une des attractions touristiques de Yogyakarta et de ses environs. Heiha Ocean View offre une belle vue sur la mer du Sud, avec la brise de la plage et les lumières la nuit. Son emplacement au-dessus de l'altitude soutient davantage l'expérience de voir les sites au large de la côte sud. Si vous souhaitez venir visiter Heiha Ocean View, est situé dans la région de Bolan, le village de Girikarto, le district de Pangan, la région de Gunung Kidul, Yogyakarta. Bon chargé d'art, c'est tout. L'Indonésie en couleur.
So hard, I see. Life is bittersweet. Find me possibilities, yeah. That's all I need. Oh, hold your head up high. Show 'em what you got. Yeah.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Chers auditeurs et auditeurs, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie au monde, avec moi Audrey. Ce soir, dans la rubrique magazine musical, je vais vous présenter une chanson de Nusa Tenggara Oriental, intitulée Floba Mora. Chers auditeurs, Floba Mora signifie Flores, Sumba, Timor, alors Rote, Sabu, Lembata. Cette chanson chantée par des chanteurs membres de Musiduli raconte l'histoire de la jeune génération de Nusa Tenggara Oriental qui respecte et aime sa patrie avec sa diversité d'ethnie, de culture et de religion. Chers auditeurs, voici les chanteurs de Musiduli vont chanter une chanson de Nusa Tenggara Oriental intitulée Floba Mora. Bonne écoute! Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voiceindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.